La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale. Une émission de Radio Campus Angers, réalisée depuis nos maisons.
Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 18h et vous êtes actuellement branchés sur Radio Campus Angers. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière Covidienne de la semaine. Pas besoin de masque ou de distance de sécurité, vous embarquez dans notre nouveau format d'actualité confinée. Au programme de l'émission de ce soir, j'ai rencontré Goémon, un jeune DJ et producteur de musique électronique qui sort son premier gros projet ce week-end. On découvrira son univers. Pour la suite, Quentin prendra la main avec un petit tour d'actualité et une chronique spéciale télévision pour découvrir l'histoire autour du passage au clair de certaines chaînes afin de terminer l'émission. En tout cas, ne bougez surtout pas, on commence dans quelques instants sur Radio Campus Angers. Pour commencer cette émission, j'ai échangé avec Goémon, un jeune artiste de la musique électronique originaire d'Angers, qui sort ce week-end son EP Soft Science et animera les ondes de Radio Campus Angers ce samedi. L'occasion de discuter de sa passion et des projets qui arrivent, je vous laisse découvrir tout ça et on se retrouve juste après. J'ai avec moi aujourd'hui Maël, a.k.a. Goémon. Bonjour à toi, bienvenue dans notre Covidienne.
Bonjour, merci.
Tu viens aujourd'hui nous parler notamment musique, puisque tu es DJ et producteur de musique électronique. Dès ce que je voyais, tu as commencé notamment en 2017. Est-ce que tu as découvert cet univers d'une manière particulière? D'où te vient au final cette passion pour commencer?
À la base, j'ai découvert ça dans des petites raves, des petites free parties qu'on organisait dans la campagne autour d'Angers. C'est comme ça que j'ai vraiment découvert la musique électronique, techno et tout. Et c'est là aussi où j'ai fait mes premiers sets, où j'en ai entendu aussi pour la première fois. Donc ouais, c'est un peu par le sound system que j'ai découvert ça.
Et est-ce que tu as une volonté de faire de cet art un métier au final? C'est vraiment quelque chose qui t'intéresse?
Ouais, j'aimerais bien pousser ça le plus loin possible. Par passion, je me donne beaucoup. J'ai beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie mentale et tout. Donc ouais, un jour j'aimerais bien pouvoir en vivre, ça c'est clair. Après, j'essaie surtout d'être très personnel dans ce que je fais. Je fais pas forcément des choses qui vont marcher. Enfin, j'écoute beaucoup mes envies et j'ai envie que ça plaise, mais j'essaie beaucoup de trouver ma patte et mes sonorités à moi pour être authentique, quoi. Voilà. Donc c'est pas forcément... sûr que ça gagne, quoi.
Et qu'est-ce qui t'a attiré au final dans la musique électronique plus qu'un autre univers ou un autre style?
Déjà c'est beaucoup de curiosité. Il y a deux choses. Je pense que mon père écoutait beaucoup de musique électronique quand j'étais petit, de toutes sortes, hein, que ça allait de Kraftwerk, des pionniers, à des trucs un peu plus expérimental et tout. Et je pense que c'est assez fascinant, les méthodes de production. Comment obtenir ces sonorités-là, outer space un peu, qui paraissent être étrangères et enfin totalement ouais synthétique et enfin je trouve ça assez fascinant. C'est un peu une sorte de quête, genre pour essayer de reproduire tout ça, toutes ces sonorités. Je pense que c'est ça qui me fascine, qui me fait vibrer, quoi, en tout cas dans la musique électronique.
Comment est-ce que tu décrirais ton univers musical?
Il y a beaucoup de choses qui m'influencent et j'ai beaucoup d'inspirations très diverses. Peut-être la première chose qui me permettrait de le décrire, c'est le fait que je jongle un peu. Ça se voit pas forcément encore, mais dans toutes les productions que j'ai pu faire, qui sont restées voilà, dans ma chambre, qui en sont jamais sorties, à un moment, j'ai essayé de reproduire de la techno sombre, breaké, et puis à un autre moment j'ai essayé de plus partir sur de l'électro avec des artistes comme Maelstrom, Micron, The Exaltix, où là c'est plus des grosses basslines avec des nappes de synthé et des petites boîtes à rythme breakées. Et du coup j'oscille pas mal et en fait j'ai beaucoup de choses un peu variées. C'est assez dur de se définir aussi parce que j'ai du mal à encore choisir une voie très précise dans tout ça. J'ai du mal à me dire je me limite à ça, donc pour l'instant je fais un petit peu de tout. Mais pour parler plus de la musique que je fais, je pense que j'essaie de créer des atmosphères et des tensions. Enfin, j'essaie de mettre en tension peut-être celui qui écoute. Je me dis ça. C'est pas linéaire, c'est pas du 4-4, boum boum boum, c'est et que ça groove, quoi. J'aime bien ça aussi. Et voilà, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est sombre, mais là en ce moment je me découvre aussi vers des choses un peu plus planant, un peu plus aérien, donc.
Donc tu as rejoint notamment le collectif Angevin Le Groove Clan, qui s'inscrit dans le développement du milieu culturel et artistique. Comment est-ce que tu t'es retrouvé à travailler avec eux? Qu'est-ce que ça t'apporte, etc.?
Alors le Groove Clan, il faut savoir qu'en fait, donc ça s'est lancé en janvier 2018. Et en fait, j'avais deux bons copains, Jacob, aka Monarch, et Gilles Célin. Quand je suis allé emménager à Lyon en septembre 2018, ces copains-là m'ont appelé en me disant « Gros, on monte un collectif sur Angers avec DJ, graphiste, vidéaste, rappeur et tout. Est-ce que tu veux nous rejoindre ?» Donc j'ai tout de suite dit oui. Donc voilà un peu comment ça s'est fait, comment je me suis retrouvé à bosser avec cette clique. Donc je connaissais pas tout le monde, hein, j'ai rencontré les gens au fur et à mesure. Ça m'a vraiment permis de jouer déjà. Parce que j'avais pas tant de dates que ça, je jouais pour moi et avec pour les potes. Et le groupe Clan, il s'est vraiment inscrit dans une démarche d'essayer de faire des événements musicaux cool quoi sur Angers pour faire sortir les gens. Donc en fait, je me suis mis à mixer au bar du Quai. Ça m'a apporté beaucoup de dates. Enfin sur Angers en tout cas. Et du coup, ça m'a aussi permis de vraiment rester, d'avoir mon pied à terre à Angers tout en étant à Lyon quoi.
Et justement, en tant que personne qui a pu un petit peu se frotter à la scène locale, est-ce que tu trouves que la musique électronique est assez bien représentée localement?
Bah après c'est difficile parce que en étant à Lyon, il y a une scène qui est tellement grande et vivante et ça fourmille quoi à fond. Donc c'est vrai qu'à côté Angers, en fait je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses et il y a beaucoup de choses à faire, mais je pense qu'il y a pas tant de lieux qui le permettent. Et je pense que le souci c'est pas forcément les acteurs, mais ça va plutôt être les dispositions. Par exemple, il y a quelques années, il y avait deux bars, il y avait le Jacaré et la Chimiste, où il y avait tous les week-ends de la techno, de la house, de la musique électronique, quoi. Et tout ça, ça a fermé. Aujourd'hui, il y a plus rien, en fait, dans Angers, où tous les week-ends, les gens ils peuvent se dire, bah, ce soir, je vais aller voir des artistes cool de musique électronique. C'est un peu ce qui manque, quoi. Donc, c'est souvent des événements ponctuels par des acteurs ultra motivés. Je pense aussi au Collectif des Trois, à Groove Clan. Il se passe des choses, mais je pense qu'il manque d'infrastructures, quoi. C'est surtout ça.
Est-ce que c'est compliqué, au final, de se faire une place dans cet univers musical?
Des fois je suis très patient, des fois je suis pas du tout impatient parce que j'ai l'impression que les choses vont pas assez vite. Faut aussi prendre le temps de créer son propre projet, de le consolider, de le rendre cohérent. Donc je me suis pas trop posé cette question encore. Enfin je suis bien là où je suis pour l'instant.
Et tu portes aussi la casquette donc de producteur. Est-ce que c'est complémentaire avec le rôle de DJ au final?
Je pense que l'un apporte à l'autre. Notamment dans la construction des morceaux, le fait de mixer, peut-être de voir comment réagit un public ou quoi, j'imagine que ça peut donner un feeling quand on crée un morceau, quoi, pour que ce soit, pour qu'il se passe des choses, pour que ça bouge. Après, c'est assez compliqué parce que je pourrais par exemple essayer de mixer mes prods, donc mes productions, mes morceaux que j'ai fait, je pourrais les jouer, mais en fait, le truc c'est que là il y a une problématique qui rentre en jeu aussi, c'est que je produis pas forcément la musique que je vais jouer sur scène pour l'instant. Donc c'est pas tant lié que ça, mine de rien. Voilà.
Je voyais également que tu as eu l'occasion de te créer un home studio. Ça doit être quand même un assez grand investissement. Est-ce que c'est en quelque sorte à ce moment-là que tu as pris en même temps la décision de te lancer à fond dans la musique? Est-ce que tu t'es dit, j'investis là-dedans, je me crée un petit peu mon univers, je me crée mes outils et c'est parti?
Ouais, ça a été assez brutal comme ça, ouais. Enfin, je pense. C'est un peu ça, c'est beaucoup d'investissements financiers et de temps et d'énergie. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire qu'à moitié, je trouve. Donc ouais, c'est un peu le moment où je me suis dit, bon, bah maintenant, faut y aller, faut foncer. Après, ça n'a pas empêché que les choses aient pris leur temps. J'ai l'impression d'avoir aussi beaucoup travaillé juste pour moi, pour m'améliorer, pour rechercher des sonorités que j'aime bien et tout, sans pour autant sortir, donner à voir à un public quoi que ce soit, quoi. C'est beaucoup de recherche personnelle, mais du coup, ouais, c'est un assez fort investissement.
Ça te crée peut-être aussi une certaine liberté de création du fait d'avoir ce matériel à disposition?
Ouais, c'est compliqué quand même. C'est peut-être un peu bête, mais on peut faire de la musique un peu avec tout, quoi. Un ordinateur pourrait très bien me suffire, et il y a plein de producteurs qui sont monstrueux, quoi, qui font des choses super, qui s'en sortent très bien juste avec un ordinateur et un logiciel comme Ableton ou Logic Pro ou FL Studio. C'est plus une question de démarche et aussi de recherche au niveau des sonorités. Par exemple, moi j'ai acheté des synthés, mais j'en ai revendu aussi parce qu'en fait je me suis aussi rendu compte que c'était des instruments à part entière avec leur propre timbre et tout. J'étais pas forcément ultra satisfait, donc je revends, je rachète autre chose et tout. C'est un peu aussi une sorte de quête infinie pour essayer de trouver le bon matériel, parce qu'il y a tellement de choses en fait, il y a tellement d'instruments, il y a tellement de matériel possible. Donc en fait, il y a un moment où il n'y a pas le choix aussi d'essayer et de se tromper, et d'essayer autre chose, et peut-être qu'on se retrompe encore, ou au final, au contraire, ça marche. Donc c'est à la fois une liberté, et en même temps, faut savoir se limiter, et on peut toujours faire de la musique avec ce qu'on a. Donc voilà. Mais oui, c'est par contre, c'est un confort d'avoir des boutons sous les mains, un toucher, enfin un truc matériel sur lequel créer, quoi. C'est assez cool.
Justement, j'imagine que surtout dans cette période de confinement, c'est l'occasion de pouvoir continuer à produire. Je voyais que tu partageais un petit peu sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, des petits essais, des choses un petit peu que tu as voulu créer. Ouais. Quelle relation est-ce que tu as au final avec les réseaux sociaux? Est-ce que c'est un petit peu un biais pour pouvoir partager ton travail?
Ouais, beaucoup. Donc bah, j'ai une page Facebook et un Instagram, ouais. Et je m'en sers exclusivement pour le son, surtout sur Insta, où ça pourrait être un compte perso, où c'est vraiment tourné vers le son. Donc je sais pas, au niveau des réseaux, j'essaie de construire une image, j'ai envie de dire, cohérente, authentique, et de montrer un peu ce que je fais, et que même si je sors pas des morceaux, que je suis pas en train de mixer, bah montrer que je suis quand même en train de bosser de mon côté, quoi.
Et est-ce que tu suis une sorte de processus de création en particulier? Est-ce que t'as un petit peu tes habitudes quand t'essayes de créer quelque chose, ou pas spécialement, c'est un peu au feeling?
Vraiment, je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, pour moi, en tout cas, il n'y a pas de règle. Ça dépend, en fait. Il y a aussi une question de période. Il y a des... Bon, là, j'ai pas eu ça depuis quelques temps, mais il y a eu des moments où j'arrivais même plus à rentrer dans la pièce du studio, à me dire j'y vais, j'y rentre pas pendant 3 semaines. Alors qu'il y a des fois, j'y passe mon temps, et première chose quand je me lève, c'est y aller. Vis-à-vis des morceaux, en tout cas, dont je suis satisfait, il y a un truc, c'est qu'il y a beaucoup de morceaux que j'ai bossé pendant très longtemps. Genre, je m'acharne sur un morceau pendant 2 mois. En fait, c'est qu'il y a un problème. Enfin, je pense ça, et au final, les morceaux que j'aime le plus, c'est ceux qui sont plus intuitifs, où il y a vraiment déjà l'âme qui est là dès le début, quoi.
Tu nous en parlais un petit peu tout à l'heure, t'es un petit peu en sorte de perpétuelle évolution au niveau de ton environnement, de ton univers musical, t'essayes un petit peu de te créer ta patte, et justement cette patte, tu vas essayer de permettre au public de la découvrir grâce à ton EP qui sort ce dimanche, Soft Science.
Exactement.
Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu, nous présenter un petit peu le projet?
Ouais, donc Soft Science, c'est un EP avec 3 titres. C'est 3 qui se ressemblent, mais qui se ressemblent pas tant que ça, en fait. Ils sont liés, mais c'est quand même 3 facettes un peu assez différentes. J'ai voulu rassembler ces morceaux parce que c'est 3 que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils me correspondent vraiment. Je les ai fait chronologiquement. En fait, j'en ai fait un premier, puis après j'en ai fait un deuxième, et puis j'en ai fait un troisième. Et il s'est trouvé que je les trouvais tous les 3 bien. Et donc je les ai mis dans le même ordre dans l'EP. Au niveau des sonorités, c'est quelque chose de... Ouais, je me suis plus tourné vers des choses ambiantes, atmosphériques. J'ai essayé de vraiment d'insuffler des sortes d'âmes dans les morceaux, quoi, les rendre vivants. Et c'est mon premier projet, donc je suis assez content. Et voilà, il y a d'autres petites choses qui vont arriver derrière. Une amie de lycée, notamment, qui bosse sur un clip pour le morceau Soft Science. Il y a des choses qui vont découler de ça.
C'est un petit peu un premier pas dans le milieu qui te servira potentiellement de tremplin.
Ouais, c'est ça, bah c'est pas forcément des morceaux, j'ai envie de dire, faciles, enfin je veux dire, je considère pas que ce soit des bangers ou quoi, mais par contre j'ai vraiment l'impression de montrer mon visage un peu. Donc ouais, c'est un peu une sorte de carte de visite, en tout cas par la suite je vais m'en servir pour vous dire, bah voilà ce que je fais un petit peu, j'aimerais bien voilà pouvoir essayer de commencer à me faire signer sur des petits labels, à faire des dates pour d'autres petits collectifs à droite à gauche, petits ou plus grands, hein, ça peut être cool aussi. Mais ouais, j'aimerais commencer à essayer de bosser plus sérieusement, de m'entourer, voilà, grâce à ça.
Tu appréhendes peut-être un peu les différents retours suite à la sortie de cette EP dimanche ?
Pas vraiment, enfin, dans le sens où je suis assez pressé qu'ils sortent, parce que c'est un peu comme tourner une page. Moi, j'ai l'impression de les avoir en tête et de les avoir entendus déjà 1000 fois, et en fait, le fait de les sortir, ça me fait me dire « Ok, bah maintenant, je peux passer à un autre stade. Je peux me concentrer sur d'autres choses, sur de nouveaux projets, de nouvelles idées et tout. » Enfin, ce que je me dis plus quand je vais le sortir, c'est « Bon, bah après, il faut que je retourne au boulot et que je me remette sur de nouvelles choses, quoi. » Après, voilà, j'espère que ça va plaire, forcément. Ouais, j'espère que ça va plaire, et je pense, enfin, j'aimerais bien. Et puis après, voilà, tout le monde ne peut pas aimer non plus, donc j'attends pas à ce que tout le monde crie... crie au génie, pas du tout, quoi.
En tout cas, moi je sais que j'ai eu l'occasion donc de pouvoir écouter les 3 dont tu parles, et je trouve ça assez cool, vraiment le côté où tu peux plonger les personnes qui écoutent dans une sorte d'atmosphère. Comme tu le disais, il y a une sorte de chronologie, et en même temps on peut les écouter à suivre assez facilement, je pense, et être un petit peu emporté par ce que tu crées. Donc je sais que de mon côté je trouve ça assez cool.
Bah, merci beaucoup. C'est Céleste, là, qui bosse sur le clip de Soft Science. Elle me disait c'est un peu un morceau qui c'est pas forcément fait pour une danse effrénée, mais ça peut plus se mettre en transe, par exemple, ou c'est plus quelque chose de un peu introspectif, enfin, où on se pose et on écoute. Et, donc, ouais, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, carrément.
En tout cas, on sait aussi que tu proposeras donc aux auditeurs de Radio Campus Angers un set électro ce samedi à 19h. Quel est le mot d'ordre pour ce passage que tu nous prépares sur les ondes du 103 FM?
C'est un peu un set particulier parce que j'ai pas mes platines avec moi. Je suis pas chez moi et en fait pour la première fois j'ai fait un podcast sur un logiciel, sur Ableton. Donc il y a des morceaux que j'ai mixés ensemble. Il y a d'autres morceaux, je les ai juste enchaînés parce qu'en fait voilà, je me suis aussi un peu adapté au format radio où j'avais plus envie de proposer une selecta, une sorte de sélection quoi de morceaux que j'aime beaucoup, qui m'influencent et que j'ai envie de partager. Donc voilà, c'est le mot d'ordre, c'est ça, c'est un peu proposer des morceaux plus ou moins connus, expérimentaux, que j'aime beaucoup et voilà, c'est un peu, voilà, c'est vraiment une sélection quoi. Et dedans, j'ai aussi mis un des morceaux de l'EP, j'ai mis Oversight, donc voilà.
Ce sera l'occasion de le découvrir en avant-première un jour avant.
Ouais, c'est ça, carrément.
Pour finir, est-ce que tu as d'autres projets à venir, des objectifs pour les mois qui arrivent?
Oui, il y a un projet de sortir un morceau sur une various artiste d'un label de copains qui s'appelle Rafale Records. Après, voilà, moi j'ai envie de continuer à sortir du son, à proposer des petits live machines sur Instagram et tout. Mais j'aimerais bien proposer des morceaux pour des labels et tout. Donc je vais essayer de continuer à creuser dans ce sens-là. Puis voilà, il y a un clip qui devrait sortir. Dans la finalité, j'aimerais pouvoir produire un live sur scène. Même si j'adore mixer, j'aimerais pouvoir finir avec des synthétiseurs, des boîtes à rythme, mes machines et pouvoir proposer de la création de son à un public quoi, directement. Mais j'aimerais faire ça un jour, peut-être j'arriverai à développer ce projet. Voilà, j'ai envie de proposer ce genre de choses.
Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Et dans tous les cas, on te souhaite que tout se passe pour le mieux. Un très bel accueil de ton EP. Et j'invite vivement nos auditeurs à être au rendez-vous ce dimanche pour découvrir ou redécouvrir ton travail avec Soft Science. Et avant ça, à se brancher sur nos ondes samedi pour ton set électro.
Carrément. J'espère que ça plaira à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à toi pour cette interview.
Vous êtes toujours dans la Covidienne. Que diriez-vous après cette interview d'avoir un avant-goût de l'univers de Goémon en découvrant en avant-première un titre de son EP? Vous découvrirez son set samedi à 19h et d'ici là, on écoute le titre éponyme Soft Science sur Radio Campus Angers. sommes toujours au cœur de notre nouveau format provisoire, la Covidienne, sur Radio Campus Angers. Et pour la suite du programme, Quentin nous a préparé un nouveau point d'information. Bonsoir à toi. Et alors, quoi de neuf en cette fin de semaine ?
Bonsoir Manon, bonsoir à tous. Et on est parti pour un nouveau petit point sur l'actualité. Bon, elle se fait rare en cette période de confinement, mais tout de même, j'ai réussi à vous dénicher des petites infos intéressantes. Toujours le même format, deux infos d'actualité, deux infos insolites durant le confinement. Je vous propose de commencer en vous informant qu'il ne reste plus beaucoup de temps aux étudiants pour confirmer leur dossier, envoyer des pièces jointes ou confirmer leurs vœux sur Parcoursup. La clôture se fera ce soir à 23h59. La plateforme a par ailleurs mis en place un numéro vert pour aider les candidats à finaliser leur dossier. Il s'agit du 0800 400 070. Attention, par contre, ce numéro vert n'est ouvert que jusqu'à 20h. Malgré le confinement, le gouvernement indique que la continuité administrative et pédagogique est assurée dans les établissements d'enseignement supérieur, ce qui permet d'assurer l'examen des dossiers comme prévu de début avril à mi-mai. Les réponses seront communiquées aux candidats à compter du 19 mai. Et pour beaucoup d'étudiants, avant de penser à la rentrée de septembre, il faut penser au baccalauréat. Malgré le confinement des étudiants et des lycées depuis le 16 mars, le bac aura bien lieu, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation. Plusieurs éventualités sont envisagées. La première, si les cours reprennent entre le 4 et le 18 mai, une épreuve écrite ou orale pourrait encore être maintenue fin juin. Il s'agirait sans doute alors de la dominante de chaque série. Les bulletins de l'année serviraient à compléter la moyenne des élèves. Autre éventualité, une dose importante de contrôle continu, solution la plus simple selon le ministère, si l'école n'a pas repris d'ici le 18 mai. Autre chose aussi, un jury pour harmoniser les notes. Et puis enfin, des oraux de rattrapage pour tous. Jean-Michel Blanquer pourrait aussi annoncer que les oraux de rattrapage prévus début juillet seront ouverts cette année dans un souci de bienveillance à tous les élèves n'ayant pas eu la moyenne et pas seulement donc à ceux dont la note finale est comprise entre 8 et 10 comme c'est le cas habituellement. Concernant le brevet et le bac de français, tout dépendra bien évidemment de la date de reprise. Plus elle sera tardive et moins il sera possible d'organiser des écrits en français. Seuls les oraux pourraient être conservés, tandis que la part de contrôle continu au brevet risque de peser davantage que d'habitude. Après ces deux infos, on passe maintenant aux actus plus insolites avec une rue parisienne bien animée. Certains l'ont peut-être déjà vue et ou entendue, mais un comédien parisien a décidé de convier tous les habitants de sa rue chaque soir à un remake du célèbre jeu télévisé Question pour un champion. À l'occasion, le jeu se nomme Question pour un balcon. Chaque programme est diffusé sur Instagram vers 20h chaque soir. De la culture, de la rigolade et un esprit d'unité, voilà ce qui lie ces habitants de la rue. À la fin du jeu, l'animateur détermine qui sont les gagnants et leur remet en guise de cadeau, non pas un dictionnaire Larousse comme dans la vraie émission, mais du papier toilette. Je ne sais pas vous, mais perso, j'adore le concept. Autre petit point actu sympa, du côté de l'Angleterre, à West Boston exactement, où John Matson, un facteur un peu spécial, plus que du courrier, il a décidé de distribuer de la bonne humeur aux confinés. Sa recette est simple, faire ses tournées en étant déguisé. Avec l'accord de son supérieur, il a enfilé des costumes de chevalier, de pom-pom girl, de robe et d'autres. Un dressing qu'il tient de ses participations au Boxing Day Dive, une course caritative consistant à nager dans la mer déguisée. Du coup, dans ces jours de confinement qui peuvent paraître parfois longs, l'arrivée du facteur est assez attendue, on peut le dire. Cette histoire me permet de faire aussi un parallèle avec une actu française qui viendra clôturer ce point info. Sachez que le groupe La Poste annonce qu'il va renforcer ses équipes pour distribuer plus souvent la presse, le courrier et les colis et retrouver une présence dans les quartiers sensibles et les zones rurales. Plus de 3000 personnes ont été appelées en renfort, plus de bureaux seront ouverts. En ce qui concerne les zones rurales, La Poste veut réouvrir 400 bureaux en début de semaine prochaine.
Merci beaucoup Quentin pour ces différentes informations. On te retrouve juste après Open Season de Rocksteady pour une nouvelle chronique sur Radio Campus Angers. You and I, we get along. For some 20 years we've been on the road. You and I, in every song. Going on, rock steady,
soundtrack of my life. Every time I hear it, everything is alright. Rock steady, you're my first love. You're gonna be my last love. Rock steady, when I got a broken heart. Rock steady, rock steady, when things fall apart. Rock steady. No, I never give up. No, I never give up. I never give up, no, I never give up. I feel at home when the bass line drops. When we get into deep troubled water, we steer our ship, don't turn over. When the waves are too high on a cold and stormy day, hey, we will find a way. Rock steady, soundtrack of my life. Every time I hear it, everything is alright. Rock steady, you're my first love. You're gonna be my last love. Rock steady, when I got a broken heart. Rock steady, rock steady, when things fall apart. Rock steady. No, I never give up. 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 I feel at home when the bass line drops. Soundtrack of my life. Every time I hear it, everything is alright. Rock steady, you're my first love. You're gonna be my last love. Rock steady, when I got a broken heart. Rock steady, rock steady, when things fall apart. Rock steady, hey. Rock steady, when I got a broken heart. Rock steady, yeah. Can we keep rocking steady? Rock steady.
Vous êtes toujours dans la Covidienne sur Radio Campus Angers. Alors, Quentin est toujours avec moi pour la suite de cette émission. Il me semble que tu nous as concocté un second sujet. De quoi vas-tu nous parler ?
Effectivement Manon, après un petit point actualité, je vous propose un petit focus sur un sujet qui jusque-là avait ravi un bon nombre de Français, à savoir le passage au clair des programmes de Canal+. La chaîne cryptée avait souhaité participer à l'effort collectif en rendant gratuit ses programmes en direct pour tous les Français disposant d'une box. Elle avait également ouvert l'accès à ses autres chaînes thématiques, à savoir cinéma, séries, jeunesse, documentaire, pour ses abonnés avant de faire machine arrière. Bref, ça restait quand même une belle initiative en cette période de confinement, d'autant plus que selon un sondage réalisé par le CSA, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, cette initiative faisait partie des préférées des Français. Mais voilà, sur demande du CSA lui-même et après que certaines autres entreprises médiatiques comme TF1, M6 ou encore la Société des auteurs et compositeurs dramatiques aient râlé, Canal+ est repassé en crypté depuis hier soir et comme argument une équité vis-à-vis des autres chaînes, notamment au financement du cinéma. Alors j'aimerais commencer avec cette histoire d'équité vis-à-vis des autres chaînes. L'une de ces entreprises qui est venue pester est, je ne vous apprends rien, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est TF1. La filiale du groupe Bouygues fustige une concurrence qu'elle juge déloyale, car TF1 achète ou coproduit des films en ayant l'assurance d'avoir l'exclusivité de la première diffusion en clair. Là, clairement, elle se faisait couper l'herbe sous le pied. Alors pour que vous puissiez comprendre la polémique, il faut se souvenir qu'il y a une règle de diffusion des films de cinéma, comme je l'ai dit précédemment. En gros, c'est simple, le film doit sortir en salle, puis 6 mois après, Canal+ est autorisé à le diffuser sur les réseaux. Donc quand la chaîne cryptée passe en clair, clairement, elle outrepasse cette règle et selon le CSA, cette décision de Canal+ est de nature à remettre en cause la chronologie des médias et elle pose aussi des questions vis-à-vis des autres diffuseurs et des droits. Ici, l'idée de Canal+ était d'aider les Français à trouver le temps moins long en justifiant qu'il n'y avait plus de salles de cinéma ou de théâtre ouvertes et que la chaîne voulait accompagner les Français. D'autant plus qu'il faut rappeler ce que le CSA avait mentionné vis-à-vis des médias privés suite au confinement. Il avait assuré qu'il ferait preuve de compréhension tant la crise du coronavirus faisait chuter les recettes publicitaires des chaînes. Alors c'est sûr que on peut le dire, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd hein, du côté de Canal+, qui en a profité pour faire un joli coup de com' en annonçant la diffusion de tous les programmes au clair. Ce choix, j'ai envie de dire, on peut le voir de deux manières différentes. Soit on réfléchit business, profit, etc. Et effectivement, dans ce cas-là, on peut dire que Canal+ est allé sur le front de l'attaque en jouant crânement sa chance et en offrant 15 jours de gratuité pour toute personne qui possède une box. Soit, dans une situation exceptionnelle comme celle-là, on peut aussi se dire que Canal+ a fait preuve de bonté et de solidarité. C'est d'ailleurs ce qu'a annoncé le directeur des programmes de Canal+. Après, bien évidemment, hein, il n'aurait pas fait une déclaration publique en disant qu'il voulait faire un petit coup de Trafalgar à ses concurrents. Cela va de soi, on est d'accord. Mais moi j'ai envie de dire, pourquoi doit-on bannir l'idée d'un geste de solidarité, de sympathie de la part d'un groupe qui en a quand même connu beaucoup de discordances dans le milieu médiatique ? Pourquoi ce groupe n'aurait pas le droit de faire un geste pour les Français ? Après tout, c'est leur choix. Pour faire l'avocat du diable, quand même, il faut signaler que Canal+ n'avait pas averti le CSA en amont concernant sa démarche et que, selon moi, cela lui a valu ce litige-là, car selon le CSA, leur offre de gratuité totale conduit à un déséquilibre médiatique, ce qui peut se comprendre. Si les intentions de Canal+ sont avant tout d'accompagner les Français dans ce confinement, il aurait été, selon moi encore une fois, hein, bien plus judicieux pour eux d'en avertir le CSA et de voir avec eux quelle serait la meilleure option pour accompagner les Français, et je pense qu'un compromis aurait facilement été trouvé. Après, bizarrement, trois entreprises viennent se plaindre de concurrence déloyale auprès du CSA envers Canal+, dans un moment où le groupe de la chaîne cryptée est dans une bonne phase et guérit lentement mais sûrement de sa douloureuse période il y a quelques années avec le scandale Bolloré qui avait repris le groupe en 2017. À un certain niveau, on peut peut-être se dire que les autres entreprises tentent aussi de mettre un petit peu des bâtons dans les roues à leurs concurrents. Après, tout est possible, hein, il ne faut rien exclure. D'autant plus qu'il faut se souvenir du petit différend qu'il y avait eu entre TF1 et Canal+, il y a 2 ans, où Canal+ avait pris le parti de couper la diffusion des chaînes de TF1 à ses abonnés, dû à l'expiration des accords de distribution avec le groupe TF1. Canal+ avait dénoncé les exigences financières déraisonnables et infondées. Derrière, voilà, la réponse de TF1 ne s'est pas fait attendre. Quelques heures après la décision de Canal+, le groupe de Gilles Pélisson réagit dans un communiqué et dénonce une décision unilatérale du groupe. Il s'était dit alors scandalisé. TF1 déplore que les clients du groupe Canal+ soient pris en otage. L'entreprise demande encore à Canal+ de prendre en compte l'intérêt légitime des abonnés et avait rappelé n'avoir jamais demandé ce que les chaînes de son service Replay soient coupées. Bref, une histoire qui avait fait parler et couler beaucoup d'encre et qui aussi pouvait laisser penser que les relations entre TF1 et Canal+ ne sont pas super. Hein. Encore une fois, avec cette dernière histoire, on peut que le confirmer. Ceci étant, Canal+ a stoppé la gratuité hier soir. Donc voilà, vous avez pu profiter pendant 2 semaines, si vous possédez une box, de les programmes en clair. En tout cas, sachez que le gouvernement, de son côté, réfléchit à raccourcir certaines fenêtres d'exploitation des films après leur passage dans les salles de cinéma. Sont évoquées la vente et la location, donc du DVD, VOD ou Blu-ray, la télévision et les services de demande. Cela concerne les films et les documentaires déjà programmés au cinéma dans les prochaines semaines. Il s'agit en fait de les sauver du silence et de leur permettre de trouver un public alors que les salles de cinéma sont bien évidemment fermées.
Eh bien, merci Quentin pour cette chronique. Nous approchons de la fin de l'émission et avant de se quitter, je vous propose d'écouter To The Beat Yo de Chinese Man sur Radio Campus Angers.
Yeah. y'all. Tick-a-boom, bap, 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 bap. Tick-a-boom, bap to the beat, y'all. So pay attention to the beat, y'all.
Pour nous de clôturer cette dernière Covidienne de la semaine. Vous pourrez, comme d'habitude, retrouver le podcast sur notre site radiocampusangers.com. Rendez-vous la semaine prochaine, du lundi au jeudi, dès 18h, pour de nouvelles émissions. Soyez au rendez-vous, et d'ici là, restez chez vous, prenez soin de vous, et passez une bonne soirée sur le 103 FM.